tous les podcasts D3-8, radiogrenouille.com.
Les philosophes publics est le nom d'un collectif composé de professeurs de philosophie, créé en décembre 2015.
Notre objectif est de proposer une forme d'engagement politique.
En réaction aux diverses crises que traverse notre société et suite aux événements insupportables de ces derniers mois.
À notre échelle, et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles façons d'être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.
À l'écoute des autres, ouvert à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, nous voudrions nous retrouver là où la philosophie n'est pas nécessairement attendue.
Loin de l'entre-soi, nous sommes disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.
Tous les mois, nous nous retrouverons sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger et continuer à penser ensemble.
Bonjour à tous. Bonjour Monique, bonjour Morgane, bonjour Gabriel.
Bonjour Hélène.
Donc c'est aujourd'hui une deuxième émission des philosophes publics sur la sécurité, autour aujourd'hui des mots MOTS et des mots MAUX de l'insécurité, qu'on peut énoncer et que je vais énoncer dans une introduction comme un inventaire à l'après-Vert. Le dérèglement climatique, la dérégulation de l'économie, la fin de la protection sociale, le terrorisme, la peur de grossir, la peur du lendemain, la mise en cause du régime des retraites, de la protection sociale, le sentiment dominant que les générations à venir vivront moins bien que nous, que les précédentes, le dépassement par les machines, la perte de maîtrise de la technologie, l'accélération des découvertes et les innovations, le bricolage du génome, le renversement de l'équilibre international, la montée en puissance de la Russie, l'insécurité alimentaire par la famine, mais aussi par l'agroalimentaire, la peur d'être empoisonné par les firmes mondiales, la montée des eaux, la perte de la biodiversité, l'effondrement du château de cartes écologique, le repli sur des identités discriminantes, le suprémacisme blanc, le suprémacisme noir, la montée des populismes, le discours du complot, la multiplication des murs construits, en construction ou en projet, comme au Mexique, la médiatisation de la peur, le fear porn, littéralement la pornographie de la peur, ces images qui s'échangent sur Internet, l'angoisse de vivre seul, de vieillir, de mourir, et puis la peur de la guerre. C'est Morgane qui va commencer par nous présenter ce qui se cache derrière toutes ces peurs.
Oui, avec ces mots, MOTS et MAUX, comme vous l'avez bien dit Hélène, jeté en vrac, la question de la sécurité devient celle de l'insécurité, comme d'une angoisse existentielle. La protection sociale, l'État, garant de notre liberté et de notre sécurité, semble laisser la place avec le néolibéralisme à la nécessité réelle ou illusoire de la présence d'un danger qui nous imposerait de revoir les fondements mêmes de l'État social. La politique sécuritaire prend le pas sur toute forme solidaire d'organisation sociale. Mais peut-on parvenir à une société plus sûre si celle-ci abandonne à son triste sort tout un pan de la population ? On a beau construire des murs, maintenir hors des classes aisées les populations pauvres, créer des ghettos, de part et d'autre du mur d'ailleurs. Si l'État social ne permet plus aux classes les moins favorisées de se soigner, de se nourrir, de travailler, de s'instruire avec l'école gratuite, etc., nous n'empêcherons pas les maladies de passer le mur. On parle beaucoup de biosécurité, mais comment considérer la sécurité du vivant si on laisse s'installer une paupérisation grandissante de la population ? Il faut lutter contre la maladie pour l'endiguer, et non pas l'éloigner, ou la tenir loin du regard pour imaginer qu'elle n'existe plus. Évidemment, se dresse ici une réflexion sur les médias et sur la manière dont le discours sur le risque est véhiculé. D'où vient l'insécurité ? D'un retrait de l'État de son rôle de protection sociale ? Des migrants ? Du terrorisme ? Peut-on lutter contre l'insécurité en excluant toute une partie de la population dite dangereuse ? Je vous laisse la parole, Gabriel.
C'est pas, tu voulais pas dire quelque chose avant, Monique ?
Oui, pardon, je vous laisse la parole, Monique.
Non, mais merci beaucoup. Oui, je voulais juste montrer quand même que la réaction de l'État français au terrorisme relève seulement d'un modèle et qu'il y a plusieurs modèles existants dans le monde. Là, on le voit très très bien lorsque l'on compare la situation en France avec celle des autres pays qui subissent ce terrorisme, en tout cas dans notre partie du monde. Alors, grosso modo, il y aurait deux types de réactions. Une réaction, celle de la France, de l'Angleterre, des États-Unis, et puis un autre type de réaction qu'on pourrait voir se manifester en Norvège, en Espagne et puis en Allemagne. Et là, vraiment, on aurait un modèle qui se dessinerait. De réaction donc au terrorisme qui nous est vraiment étranger, enfin qui est très étranger à celui que nous connaissons en tout cas en France. Alors on le voit très bien quand on va du côté de l'Espagne. L'Espagne, on le sait, donc subit en 2004 des attentats d'une importance tout à fait considérable, hein. On a plus de 191 morts à la gare de Madrid. Et pour autant, si l'Espagne donc connaît l'analogue de notre état d'urgence au plan du droit, c'est-à-dire un état d'exception qui s'apparente à l'état d'urgence français, eh bien l'état d'exception n'a jamais été mis en œuvre, même suite aux attentats donc, de 2004. C'est-à-dire que l'Espagne réagit en n'adoptant aucune législation augmentant les pouvoirs du ministère de l'Intérieur, des services de renseignement, mais a augmenté simplement les moyens donc, de ces services de renseignement. Alors, si on va du côté de l'Allemagne, on voit également qu'on a la possibilité, l'État allemand a la possibilité de déclarer un état de crise intérieure qui permet une limitation des libertés individuelles, mais que cette disposition n'est pas non plus mise en œuvre et qu'il n'est pas question aujourd'hui non plus de la mettre en œuvre suite aux derniers attentats, donc très très récents, hein, que Berlin a subi. En Norvège, de même, hein, la Norvège connaît des attaques terroristes. Et pour autant, en réaction à ces attaques terroristes, le gouvernement norvégien décide seulement de fournir aux forces de l'ordre en patrouille, jusqu'alors désarmées, un pistolet. C'est la seule mesure prise donc par l'État norvégien à ce jour en réaction donc aux attentats que connaît le pays. Alors, si on bascule du côté du second modèle de réaction, on voit bien que les données sont tout à fait différentes. Second modèle, alors il serait plus présent en France, en Angleterre et puis aux États-Unis. Alors aux USA, on connaît le Patriot Act, en Angleterre le Terrorisme Act, et puis en France il y a non seulement l'état d'urgence mais aussi tout un ensemble de mesures, la loi sur la rétention de sûreté, la constitution d'un ensemble de fichiers, on est à 38 fichiers à peu près constitués en France aujourd'hui, on connaît plus particulièrement le fichier S et puis le tout nouveau fichier donc TES, mais on sait aussi qu'au plan européen donc il y a un projet de constitution d'un fichier qui serait le PNR. Alors, peut-être deux mots sur le Patriot Act. On le sait, c'est une loi antiterroriste qui a été votée par le Congrès des États-Unis. C'est une action législative qui ne respecte pas le cadre constitutionnel. Hein, alors, qui, pour cette raison, va évoluer en 2015 et qui devient le Freedom Act, moins liberticide que le précédent, c'est-à-dire qu'il ne permettrait pas la collection automatique de métadonnées, en tout cas des Américains, par les agences de renseignement. Mais on sait que Donald Trump s'est déjà prononcé en faveur d'un retour au Patriot Act. Hein. En Angleterre, on a le Terrorisme Act. Alors c'est un dispositif, pareil, législatif, hein, qui va permettre aux individus présumés terroristes d'être détenus jusqu'à 28 jours sans charge. Alors, suite aux attentats de novembre à Paris, le gouvernement britannique a annoncé qu'il doublerait aussi les dépenses en matière de cybersécurité. Et qu'il augmenterait les effectifs de ces services de renseignement. Alors, si on va du côté de la France, je voudrais m'attarder un petit peu plus sur la situation en France. Hein. On est en situation d'état d'urgence, alors ce qui est éminemment problématique aussi en période préélectorale, on va voir que cette situation d'état d'urgence tout à fait problématique, parce qu'elle porte atteinte à la vie démocratique et au caractère démocratique des institutions. Alors, on le voit lorsque l'on sait que la vocation première de l'état d'urgence est de renforcer les pouvoirs de l'exécutif, à des fins de sécurité, c'est-à-dire que l'état d'urgence donne pouvoir au ministre de l'Intérieur de priver de liberté de circulation, d'assigner à résidence, d'autoriser à des perquisitions chez toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Et ce, donc, en dehors de tout contrôle judiciaire, puisque seul le juge administratif peut a posteriori exercer un contrôle sur ses décisions administratives. Alors, on le voit, hein, l'état d'urgence permet sur de simples soupçons policiers, des assignations à résidence, des perquisitions, des assignations à résidence qui instituent une véritable rétention administrative à domicile, hein, ainsi que des perquisitions donc sans autorisation judiciaire. Alors, il y a au moins là trois problèmes majeurs posés par cette situation d'état d'urgence. Premier problème, un problème de constitutionnalité. C'est-à-dire que l'état d'urgence méconnaît l'article 66 de la Constitution, un article selon lequel nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe, dans les conditions prévues par la loi. Alors, même si l'on dit que l'état d'urgence est de droit parce qu'il a été décidé par les parlementaires, eh bien, subsiste quand même un deuxième ordre de problème. Hein. Il diminue les pouvoirs du judiciaire et puis il autorise des répressions. C'est-à-dire qu'on a un état d'urgence qui va permettre aussi des répressions, c'est-à-dire qu'il ne fait pas seulement de la prévention, c'est-à-dire qu'il ne vise pas seulement des personnes soupçonnées de terrorisme, mais il soupçonne finalement tous ceux qui peuvent représenter une menace pour la sécurité et l'ordre public, tous ceux qui peuvent atteindre gravement à l'ordre public, c'est-à-dire qu'il va permettre d'interdire des rassemblements, des manifestations de type politique. Par exemple, on voit que des activistes écologistes ont été assignés à résidence pendant la durée de la COP21. Et ceci sur un procès d'intention. Hein, donc c'est un vrai problème de fonctionnement démocratique des institutions qui est posé ici donc par l'état d'urgence. Alors un troisième problème peut-être avant de passer la parole à Gabriel, hein, un troisième problème posé par cette situation d'état d'urgence est celui de la transformation radicale des critères qui établissent la vérité dans le monde judiciaire. C'est-à-dire que dans un état de droit, il est clair qu'un crime, hein, ne peut être certifié que par une enquête judiciaire. Et il est clair donc qu'il doit y avoir une certitude, hein, la certitude du droit donc concernant le fait du crime. Or là, c'est sur un simple soupçon. Ce qui frappe avant tout un observateur, hein, c'est le renoncement radical à l'établissement de la certitude judiciaire et donc c'est seulement sur un procès d'intention, devrions-nous dire, eh bien qu'intervient le ministère ici de l'Intérieur. Donc trois problèmes majeurs qui font finalement de l'État français un État ici liberticide, c'est-à-dire qui porte une atteinte grave, hein, aux libertés publiques. Voilà, et là-dessus je passe la parole à Gabriel.
Donc oui, Monique a bien pointé l'articulation problématique entre liberté et sécurité. Je vais essayer d'interroger une autre articulation, celle qui se joue entre sécurité civile et sécurité sociale. Donc aujourd'hui, on assiste à la remontée d'une forte insécurité sociale. On peut appeler ça la crise de l'état social. Je dirais plutôt état social plutôt que état providence, pour des raisons qui seraient trop longues à développer. Donc on peut se demander comment juguler cette insécurité sociale et surtout pourquoi. Mais avant, il faudra voir un peu ce qu'on entend par la sécurité sociale, donc qui n'est pas simplement réduite à l'institution sociale, enfin ce qu'on appelle la sécu aujourd'hui. Donc on va prendre un peu de champ. Et voilà, donc il faut comprendre que la fragilisation, hein, l'effritement des protections sociales menace peut-être la sécurité civile. Donc la protection sociale, c'est ce qui permet de pouvoir maîtriser un peu son présent, anticiper l'avenir, donc de ne pas se sentir fragilisé et soumis à tous les aléas de l'existence. Alors oui, accident, maladie, vieillesse aussi, invalidité quand on ne peut plus, quand on ne peut plus ou quand on ne peut pas travailler, donc être vraiment soumis à ce qui arrive, se sentir fragilisé. Donc là, on voit que c'est aussi la sécurité intérieure, hein, le sentiment de sécurité dont on avait déjà parlé, qui est fragilisé. Alors quand on n'a pas ces protections sociales, en fait, ça influe évidemment aussi au plus profond du psychisme. C'est une corrosion du caractère, une fragilisation des structures psychiques qui peut amener ensuite à plusieurs réactions. Donc ça c'est vraiment noué le sentiment de sécurité. Psychique, enfin mental, affectif, individuel, et c'est vraiment attaché donc aux protections sociales. On s'inscrit dans une société. Alors la protection sociale permet de faire société, justement, permet la cohésion sociale, et quand elle s'effrite, il y a délitement du lien social, risque d'exclusion, hein. Et que font ces exclus? Ces exclus, donc, qui sont moins ou plus du tout protégés par ce qui était jusqu'à présent les protections assumées par l'État social. Donc, que font ces exclus des protections sociales, hein? Il y a différentes réactions possibles. Alors, ça peut être des réactions individuelles, donc, je ne sais pas, assister à sa propre déchéance, demander des subsides sociaux, aller mendier dans un bureau ou un autre, comme on voit bien dans le film... de Ken Loach, Peter Blake, hein, être dépendant de la charité et de la bonne, du bon, de la générosité des autres. Mais on peut aussi, si on est fragilisé psychiquement, avoir des passages à l'acte un peu plus terrifiants, terrorisants. Et voilà, qu'est-ce que... Il y a aussi des réactions collectives, parce que même si on sent sa vulnérabilité, si on l'éprouve individuellement, les réactions peuvent être collectives. Et là, ça peut s'exprimer dans les urnes, donc c'est des votes de ressentiment. C'est-à-dire que pour toutes ces catégories de populations qui accédaient auparavant à des biens matériels ou autres, enfin un certain mode de vie, et qui en sont dorénavant privés, il y a une sorte de ressentiment qui va bizarrement se tourner vers les catégories les plus proches, en fait. Pas forcément les nantis, l'élite complètement hors d'atteinte et même qui peut faire fantasmer avec un mode de vie incroyable, mais le ressentiment va se tourner vers les catégories très proches qui ont encore ce qu'on avait il n'y a pas si longtemps. Et voilà, donc des votes de ressentiment qui enfin, bon, bref, je vais donc plutôt comme je m'étais proposé de dire ce que recouvre vraiment la protection sociale, la sécurité sociale. Et là, je m'appuie sur Robert Castel, qui est décédé, je crois, en 2013, formation de philosophe puis sociologue, qui a écrit un gros pavé, là, Les Métamorphoses de la question sociale, et puis plus récemment un ouvrage plus petit, L'insécurité sociale. Donc, en fait, il procède un peu à une approche généalogique, c'est-à-dire il retourne aux origines, hein, de ce qu'aujourd'hui on appelle la sécurité sociale. Donc, c'est assez passionnant. Donc, il dit qu'avant, la protection sociale, hein, c'est ce qu'on appelait la protection rapprochée. Elle était donnée par une appartenance naturelle, hein, à une communauté, donc déjà la famille. Bon, c'est aujourd'hui, hein, la famille peut subvenir, peut aider la personne qui ne peut plus travailler lors de sa vieillesse, etc. Donc, la famille. Aussi, cette protection rapprochée, elle était donnée par l'inscription des individus dans des corporations de métiers. Guildes, juranges, etc. Et aussi par une inscription territoriale, hein, voisinage, entourage immédiat, etc. Alors Castel dit bien que ces protections rapprochées, c'était aussi des dépendances, des sujétions. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas fantasmer trop sur les corporations. Hein, c'était quand même, il y avait le maître, les compagnons, enfin bon... Voilà, donc c'était aussi des dépendances, c'était aussi des contraintes. Bon, mais protections rapprochées. Ensuite... plus ou moins au moment de la Révolution française, hein, la protection est rattachée à la propriété. D'ailleurs, on voit dans la Déclaration des droits de l'homme, hein, les quatre droits naturels, liberté, propriété,
sûreté, justement, sécurité et résistance à l'oppression. Propriété, pourquoi ? Hein, on se dit, bah, enfin, bon, c'est que effectivement, la propriété permet un minimum d'indépendance, un minimum de liberté. C'est-à-dire être propriétaire, c'est que quand on sait qu'on ne pourra plus subvenir à ses besoins par le travail, on aura toujours un petit pécule, quoi. Mais ce que les premiers fondateurs hein, de l'État libéral, hein, ils laissent complètement de côté, plus ou moins, les non-propriétaires. Bon, il y a des différences hein, entre Locke et Hobbes. Hein, Locke comprend bien, d'abord, la propriété. On peut comprendre qu'il faut un minimum de propriété pour ne pas être obligé de se vendre, hein, d'être réduit en esclavage. Hein. La propriété, c'est l'indépendance. Mais les non-propriétaires, alors Hobbes, pourtant si sulfureux par ailleurs, hein, Hobbes a bien prévu ça, puisque je vais vous lire un petit passage. Hein. Donc Hobbes affirme la nécessité d'un rôle de protection sociale de l'État pour les individus dans le besoin. Donc, je cite, « Attendu que beaucoup d'hommes deviennent... par suite de circonstances inévitables, incapables de survenir à leurs besoins par leur travail, ils ne doivent pas être abandonnés à la charité privée. C'est aux lois de la République d'y pourvoir, dans toute la mesure requise par les nécessités de la nature. » C'est dans le chapitre 30 du Léviathan. Donc, voilà, tous ceux qui ont édifié l'État libéral ont laissé de côté les non-propriétaires. Et ça va durer longtemps. Hein. Tous les soubresauts, Première, Deuxième, Troisième République, etc., ça va durer longtemps. Parce qu'en fait, les protections sociales, elles s'installent vraiment très tard. Hein, fin 19e, hein, 1884, y a les penseurs, les solidaristes, on les appelle, ils parlent de propriété sociale. La propriété sociale, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, en gros, la sécu. Sauf que, il ne faut pas oublier dans la propriété sociale, les services publics, hein, l'école, quand même, l'éducation... Hein, pouvoir acquérir un capital culturel, enfin j'aime pas trop ça, et tout service public, hein, la propriété sociale, en fait, donc elle va se substituer, porter remède hein, pour les non-propriétaires, il y aura la propriété sociale qui est en fait une consolidation, elle est rattachée au travail. C'est bien peut-être ce qui fait problème aujourd'hui. Elle est rattachée au travail. C'est une consolidation du statut du travailleur qui devient son travail devient un emploi, c'est-à-dire qu'il est protégé par le droit du travail, par des régulations collectives et. Il va s'inscrire dans un collectif de travailleurs, enfin que ce soit syndicat, etc. La différence avec les corporations, c'est que c'est des lois, des règles qui dépassent, enfin qui sont, qui sont par branche, qui dépassent des petites structures et des rapports de personne à personne. Quoi. L'employé va sortir du rapport de personne à personne, il va être protégé par des lois, droit du travail, des régulations collectives, des conventions collectives. Donc ça se mettra en place très longtemps. Donc c'est ça la propriété sociale, c'est le droit attaché au travail, les droits dont bénéficie le salarié. Évidemment, il y a la retraite, l'accident, tout ce qu'on entend aujourd'hui par sécu au sens strict. Hein. Donc ce qui fait problème aujourd'hui, c'est que justement... cette sécurité sociale soit encore essentiellement, et tant mieux, mais essentiellement rattachée au travail. Parce qu'avec le chômage de masse et la mondialisation aussi, hein, avec le chômage de masse, on peut imaginer qu'un tout petit nombre d'actifs cotisent pour un grand nombre de chômeurs et d'inactifs. Donc quand ça va craquer ? Alors, en fait, le petit bouquin de Robert Castel donne pas vraiment de recettes. Hein. Je veux dire, comment aujourd'hui juguler l'insécurité sociale qui peut nous mener, hein, je répète, à l'insécurité civile, puisque les individus et les catégories entières qui se sentent laissées pour compte et qui ne peuvent plus faire société, donc peuvent être amenées à différentes réactions, et y compris à tenter au bien et à la propriété d'autrui, qui sera jamais protégée par des murs assez hauts. Donc comment juguler cette insécurité sociale ? Il y a plusieurs pistes, mais donc c'est vrai que même les protections rapprochées, ça peut faire réfléchir. La propriété, d'une autre façon, le problème posé aujourd'hui par la sécurité attachée au travail. Alors, on entend beaucoup parler du revenu d'existence, donc un revenu inconditionnel hein, qui serait détaché du travail et des cotisations qu'on n'aurait pas pu fournir d'ailleurs. Mais il y a un problème de mise en œuvre. Y a quelque chose, hein, y a quelque chose à inventer. Et qui en plus doit surmonter le problème de l'effritement de l'État-nation, quoi, la mondialisation des échanges, la mondialisation des inégalités. Je pense que.
Oui, merci Gabrielle. Hélène, pour conclure.
Bah en fait, ce qu'on voit avec vos deux exposés, c'est que finalement, dans les deux cas, enfin que ce soit au niveau mondial, au niveau national, au niveau de la sécurité civile, c'est que la peur engendre la peur. Et qu'en fait, ce qu'on essaye de faire, nous, les philosophes publics, c'est d'aller à la rencontre des gens qui éprouvent toutes ces difficultés pour en parler. Et qu'une des solutions qu'il faut maintenir et que nous empêche l'état d'urgence, et c'est la raison pour laquelle il fait peur, c'est qu'il faut pouvoir se réunir, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir entretenir des liens sociaux, il faut pouvoir créer de la solidarité, de l'amitié. Et toutes ces solutions, c'est les solutions qu'on essaye d'ouvrir avec les gens qu'on rencontre. Alors, on vous propose de prolonger cette problématique de la sécurité dans une troisième émission qui serait sur l'organisation politique de l'insécurité, avec les effets de la mondialisation, et notamment les migrants, la construction des murs, dont on a déjà parlé, l'insécurité alimentaire, parce que ça aussi c'est important, et puis les désastres écologiques.
Et la biosécurité, ce qu'on appelle la biosécurité,
oui.
Le traçage, la biométrie, etc.
Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie et merci de votre écoute et à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Les philosophes publics est le nom d'un collectif composé de professeurs de philosophie créé en décembre 2015.
Notre objectif est de proposer une forme d'engagement politique.
En réaction aux diverses crises que traverse notre société et suite aux événements insupportables de ces derniers mois.
À notre échelle, et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles façons d'être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.
À l'écoute des autres, ouvert à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, nous voudrions nous retrouver là où la philosophie n'est pas nécessairement attendue.
Loin de l'entre-soi, nous sommes disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.
Tous les mois, nous nous retrouverons sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger et continuer à penser ensemble.
Retrouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.